Question de la semaine. Craignez-vous d'être discriminé un jour à cause de vos gènes? Feriez-vous un test génétique?
Répondez-y, s'il vous plaît, sur canalem.vusezvoix.com ou encore sur les réseaux sociaux. C'est important, on veut avoir votre avis. Déjà, quelques commentaires ont commencé à s'ajouter. Ça vous concerne, hein? C'est la chose probablement la plus universelle et la plus intime, nos gènes, disons ça comme ça. On vous présente un peu le côté sombre de ce qui pourrait représenter quelque chose de majeur, en fait, probablement, que ça va dessiner notre histoire et ça le fait, et ça va le faire encore pour des siècles, peut-être. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'il est possible, du moment qu'on connaît notre cartographie intérieure, nos maux, nos risques, les potentiels, les maladies, est-ce que c'est possible d'être discriminé? Alors, avec nous, il y a des spécialistes de haut niveau qui réfléchissent, qui nous proposent des solutions, des meilleures questions aussi aujourd'hui. D'abord, avec nous, Maître Ida Gwenfez. Bonjour, madame. Alors, rappelons que vous êtes associée académique au Centre de génomique et politique de l'Université McGill, mais aussi avocate.
Oui.
Bon, Sahad Salman, qui est conseillère juridique et aussi gestionnaire de la propriété intellectuelle au sein d'Aligo. Bonjour. Ah, on l'appelle plus tard. Et donc, elle sera avec nous un peu plus tard. Et au téléphone, professeur Pavet Hamet, qui est professeur de médecine à l'Université de Montréal et qui s'intéresse particulièrement comme membre de la chaire de recherche du Canada en génomique prédictive, qui s'intéresse notamment aux questions de discrimination génétique. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Bonjour. Oui, ça va bien, vous aussi?
Oui, ça revient.
Écoutez, vous venez tout juste de revenir de Bruxelles. C'est très gentil d'accepter.
Je sors de l'avion.
Donc, on vous prend sur le fly dans le mauvais québécois.
Ouais.
Bon, très bien.
Où j'ai présenté cette problématique, oui.
En plus, ah oui, et vous venez présenter ça à quelle audience exactement?
C'était l'audience scientifique, médicale, c'était à Venise. Mm-hmm. C'était des collègues qui se préoccupent, est-ce qu'on va être capable de prédire les gens qui sont à risque, est-ce qu'on peut, en les traitant plus tôt, d'augmenter l'efficacité de la médecine?
Parce que c'est d'abord la première question, on s'inquiète de la discrimination, mais c'est d'abord une voie extraordinaire pour améliorer non seulement le diagnostic, mais même éventuellement les thérapies.
Oui, oui, il faut beaucoup d'éducation là-dessus, autant des assurances que du public et des politiciens, mm-hmm. Parce que oui, le danger existe, il faut protéger les gens dans leur intégrité, dans leur intimité, tout ça c'est absolument nécessaire et la loi canadienne c'est un bon premier pas dans ce sens-là.
Oui, parce que rappelons qu'il y a une loi qui vient d'être adoptée, on va en parler un peu après.
Oui, c'est mm-hmm. ça, on a au moins un cadre juridique qui mm-hmm. n'est pas encore parfait, mais qui s'en pas. Mais il faut un débat sociétal, parce que est-ce que vraiment je vais priver les médecins et les patients de savoir que qui peut avoir une complication rénale de diabète mm-hmm. Par crainte d'une discrimination mm-hmm. et de les privant de traitement.
Avant tout, docteur, est-ce que... professeur, pardon, je suis désolé, professeur.
Bon, ça va.
C'est un peu des deux. Donc, professeur, dites-nous, faites-nous peut-être un étayage du genre d'informations qu'on peut obtenir, du genre de maladies ou de troubles qu'on peut bien connaître et peut-être même enrayer.
Oui, ben écoutez, la crainte vient surtout des maladies monogéniques, c'est un gène qui est complètement déterminant d'une mm-hmm. complication majeure et que ça raccourcit la vie. Mais ça, c'est très rare dans la population, si vous voulez. Il faut s'en occuper de façon spécifique. Mm-hmm. Mais nous, de quoi on parle dans la médecine personnalisée, on parle de beaucoup plus, on parle des affections comme hypertension, mm-hmm. hypercholestérolémie, diabète. C'est la moitié de la population.
Ah oui, c'est beaucoup de gens. Puis
c'est,
on
c'est
dit
beaucoup de gens.
Qu'on
et
a
y en
tous...
A qui sont, y en a qui sont traités pour rien. Est-ce que ça nous intéresse? Ah. Est-ce que ça les intéresse? Et ça devrait intéresser fortement les compagnies d'assurance. Uh-huh. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent la médication et ils ne peuvent pas répondre à cette médication-là.
Bien sûr.
Et nous commençons d'être capables de leur dire.
Uh-huh. Mais même les gouvernements peuvent apprécier qu'on ne fasse pas des tests ou administrer des traitements qui ne sont pas en ligne avec le bon diagnostic.
Autant que le gouvernement canadien, que le gouvernement québécois ont investi beaucoup dans cette orientation, si vous voulez, mm-hmm. Quand et comment ça va diminuer les coûts de médecine, Mais on est en veille d'appliquer ça dans la médecine. Au mois de juin, on a un congrès à Montréal, au mois de septembre, on a un congrès à Montréal dans lequel on s'intéresse justement à comment insérer ça dans la pratique médicale, comment expliquer ça aux praticiens généraux. Ces problèmes-là, comment l'insérer, comment bénéficier la médecine, pour moi, c'est un problème plus important que le danger de discrimination qu'il faut régler tout simplement, mais qui n'est pas un problème qui va continuer.
Est-ce que donc, et j'ose vous poser la question, comme chercheur, vous seriez plus tolérant sur une partie discrimination étant donné les possibilités importantes que ça amène?
Non, je n'accepterai pas la discrimination. J'étais actif au niveau fédéral quand la loi a été préparée, j'ai fait mes commentaires. Je trouve ça extrêmement important de s'assurer que nos gens ne sont pas discriminés parce qu'ils ont participé à une étude génétique ou parce qu'ils ont été testés, qu'ils soient négatifs, qu'ils soient positifs. Il y a des législations qui ont résolu le problème, tout simplement que les compagnies d'assurance ne devront pas avoir le droit d'avoir cette information additionnelle jusqu'au que le patient est malade.
Bien sûr. Et je veux seulement savoir, je m'adresse aux chercheurs là, qui à la fine pointe de ce qui s'évalue ce test en ce moment. Est-ce que toutes ces analyses jouissent d'une très bonne fiabilité? Est-ce qu'on peut très souvent être certain?
La fiabilité est plutôt extraordinaire.
Ah
c'est,
oui?
C'est la compréhension ou l'implication ou l'utilité clinique qui reste encore à spécifier, à établir de façon juste.
OK. Donc, il faut éduquer en ce sens-là. Et donc, si on voit même des risques de maladies graves, voire potentiellement mortelles, ça ne veut pas dire que la personne va les développer. C'est ce qu'il faut expliquer aux intervenants
c'est
de la chaîne.
C'est ça qu'il faut expliquer, mais c'est surtout là où il faut pousser de ces tests-là. Je dis ça tout en connaissance de mots. Il faut pousser ces tests-là. C'est là où ça peut donner un bénéfice à l'individu. Ça peut lui apporter une prévention, ça peut lui apporter un traitement précoce. Et aussi, ça évite les vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà une colonoscopie, la plupart des gens se souviennent de cet examen.
Oui, effectivement, c'est le genre d'examen que les gens ne veulent pas passer.
On s'en souvient.
Oui, voilà.
On sait la date. Et dans ce cas-là, pour une partie de ces gens-là, l'examen est fait pour rien parce que la personne n'a pas l'affection que son frère a eue ou son grand-père a eue.
Et c'est souvent un cancer inscrit dans les gènes, le cancer colorectal, c'est ça?
Le cancer colorectal est inscrit dans les gènes, le cancer du sein est inscrit dans les gènes, le cancer d'ovaire, et c'est pour une partie, mais c'est même cette l'autre partie qui n'est pas encore dans le moment connu comme génétiquement déterminé que nous progressons à cette compréhension.
Si vous permettez, je me retourne deux instants vers Maître Ida Genfez. Maître, est-ce que les propos amenés par le professeur Hamet résonnent chez vous? Est-ce que c'est vraiment ça la question, la tension entre le risque de discriminer, mais aussi le risque d'enlever des chances de sauver des gens? Est-ce que c'est ça, au fond, toute la complexité de la question?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que le docteur Hamet est en train de dire, parce que on a des individus maintenant, si le médecin vous recommande un test génétique, qui peuvent décliner de prendre ce test-là, qui pourrait justement changer la façon dont ils vont être traités ou le diagnostic. Donc c'est important que les individus puissent faire ces choix médicaux qui sont dans leur bénéfice sans avoir se soucier que par le futur, ils pourraient être discriminés ou ne plus avoir accès soit à l'assurance, mais aussi dans d'autres domaines.
Parce qu'en fait, c'est ça l'application. C'est là où il y a du risque de discrimination, c'est ça dont on parle. D'abord, l'assurance, parce que les polices pourraient ne pas vous être accordées si on jugeait qu'il y avait un risque trop élevé que vous mouriez d'une maladie, par exemple. Mais les employeurs, peut-être aussi, le gouvernement fédéral a tendance pour certains types de secteurs, d'emplois, a tendance à regarder le dossier médical ou peut demander à le faire. Même chose au Québec. C'est, dans le fond, c'est eux qui pourraient discriminer à partir de connaissances sur le génome.
Effectivement, le potentiel de discrimination est là. Et je pense que c'est aussi quelque chose que le professeur a souligné un petit peu, c'est qu'on a aussi un manque de données. Donc, on a des individus qui a des anecdotes qui ont été rapportées, mais en termes de recherche au Québec pour savoir quelle est l'étendue de la discrimination et dans quel domaine, parce qu'il pourrait y avoir des cas dont on ne connaît pas, qui ne touchent pas forcément à la médecine. Mais c'est qu'on n'a pas de données sur l'étendue du phénomène, alors qu'il y a d'autres pays où ce genre d'études ont déjà été faites, comme l'Australie par exemple, l'Europe aussi. Et ce serait important pour le Québec justement pour pouvoir prendre une position, de faire état de ça, de faire qui est-ce qui est discriminé et l'étendue de cette discrimination s'il y en a.
Vous avez d'ailleurs beaucoup de propositions en ce sens-là, Maître Genfez, mais on y reviendra après un pont musical. On va profiter quelques instants de la présence du professeur Hamet. Est-ce que le manque de données sur les discriminations, ce sera quelque chose qu'il faudrait creuser maintenant?
Je m'excuse, je manquais le début de la question.
Aucun problème. Pour faire écho à ce que disait Maître Genfez, est-ce que manque de données sur les discriminations, c'est ça qui devrait composer notre orientation?
C'est sûr que si on veut lutter contre quelque chose, on n'a pas de données, vraiment. On est conscient quand même de danger, de discrimination. Et je pense que pour ce qu'on puisse éduquer le public et les médecins, il faut en discuter même de danger potentiel, parce qu'il faut que le démystifier un peu. Où est le danger? Est-ce que c'est vraiment important? Et c'est pour ça que ce serait fort utile d'avoir des données.
Bon, bien, on le dit, des chercheurs, généralement, ça souhaite avoir davantage de données. On vous en souhaite. Merci d'avoir pris un peu de temps avec nous, professeur Hamet, et on vous laisse probablement vers une autre conférence.
Oui. Bon. Merci beaucoup.
Merci infiniment. Donc, on se retrouve dans quelques instants, non seulement avec Maître Ida Genfez, mais aussi Shad Salman, qui est conseillère juridique au sein de l'organisme Aligo.
Si au moins c'était pour toi, pour la rivière ou le moulin, je comprendrais mieux pourquoi que demain. Demain, je vais tuer quelqu'un. Quelqu'un que je connais pas, avec une rivière, un moulin, avec une femme comme toi qui chéris aussi bien. Demain, je vais le tuer pour rien. Si la vie veut m'offrir un dernier sentiment, ce serait mon désir de mourir avant lui. Au moins qu'on m'épargne la frayeur de croiser son regard. Enterre mes outils dans la cour, le chien pour toujours, t'offrira ta beauté à mon frère qui la voulait aussi.
Question de la semaine. Craignez-vous d'être discriminé un jour à cause de vos gènes? Feriez-vous un test génétique?
Et continuez de répondre à la question. On le dit en studio, l'important, c'est aussi le débat sur cette question fondamentale, pleine de promesses et aussi pleine de risques. Avec nous, Maître Ida Genfez, qui est associée académique au Centre de génomique et politique de l'Université McGill. Et s'est ajouté Shad Salman, qui est conseillère juridique et gestionnaire de la propriété intellectuelle au sein d'Aligo. Bonjour, Madame Salman.
Bonjour.
Bonjour. Juste pour qu'on précise, en fait, votre organisation a comme partenaire presque toutes les universités et cherche un peu à mettre en valeur là, ce qu'on apprend, jusqu'à même peut-être développer des marchés et tout ça. C'est un peu ça l'objectif?
Exactement. C'est du transfert technologique. On commercialise l'innovation venant des universités.
Et donc, vous, j'imagine que vous croisez vraiment là, les intérêts privés. Est-ce que vous avez parmi les gens avec qui vous parlez des assureurs, des gens qui travaillent dans le milieu où on calcule ce risque-là?
Pas directement, mais c'est sûr qu'on a la perspective des compagnies privées. En fait, toutes les entreprises privées, généralement, lorsque vient le temps de parler de marché, ben on parle de gestion des risques. Puis les assureurs sont en plein dans ce marché-là. En fait, c'est quasiment la raison pourquoi ils existent, c'est-à-dire gérer et prédire les risques.
Et j'imagine que vous devez un peu les éduquer comme vous venez de la recherche. Est-ce que vous sentez que vous appartenez plus au monde de la recherche ou du privé?
En fait, on est plus du côté privé, mais moi, j'ai eu la chance de travailler sur ce sujet-là avec Ida, notamment un article qui a été publié dans la Revue du Barreau canadien. Donc, j'ai cette perspective-là dans le cadre de mon travail, c'est-à-dire l'approche économique de toutes ces questions-là, des enjeux liés à la commercialisation, en fait, des tests génétiques. Mm-hmm. J'ai aussi la perspective droit de la personne qui vient de mon implication ici, de mon parcours avec, entre autres, l'article qui a été publié. Donc, c'est vraiment, je dirais que c'est les deux chapeaux avec les yeux avec lesquels je regarde ce sujet-là en particulier.
Bien, et donc, vous venez du droit aussi, toutes les deux. On va revenir maintenant à... C'est quoi les pratiques un peu partout dans le monde? Parce que, faut le dire, au Québec, on n'a pas encore de cadre législatif clair. Et là, il vient d'être adopté une loi canadienne qui protège en quelque sorte de la discrimination génétique, surtout via les compagnies d'assurance. Est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est surtout ça le mandat de la loi actuelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
C'est un des sujets.
Un des sujets.
De discrimination.
Bon. Mais donc, il faut développer les normes en sachant ce qu'il y a au niveau des possibilités, en sachant les droits de la personne. Alors, c'est quoi les pratiques qui nous inspirent? Je vous pose la question à toutes les deux, allez-y, celle qui veut répondre. Est-ce qu'il y en a dans le monde des pratiques qui devraient nous inspirer? Est-ce qu'on a des exemples sur lesquels on devrait se pencher?
En fait, peut-être Ida qui a fait tout l'historique,
oui.
Je pourrais peut-être apporter ma perspective.
Bon, parfait. donc, rajoutez-en ensuite, mais maître Ida Genfes, vous avez effectivement publié une enquête fort intéressante et en prémisse de ce document là, qui aide à préciser une politique, vous avez fait une évaluation de ce qui existe sur la scène internationale. Donc, peut-être que vous pourriez nous tirer quelques traits de cette partie-là de votre recherche, de votre travail.
Effectivement, parce que le professeur Joly, qui est en fait le professeur qui a mené l'étude et qui est au Centre de génomique et politique, le directeur de recherche, ça fait plusieurs années, presque une quinzaine d'années qu'il font de la recherche sur ce sujet-là. Et dans cette étude plus particulière, on a regardé quelles étaient les approches juridiques ou politiques dans les autres pays.
Parce que ça prend des deux. Hein?
Voilà, ouais. Exactement. Et donc, un des modèles qu'on a trouvé, c'était celui du Royaume-Uni, où effectivement, les assureurs n'ont pas accès à l'information génétique. Il y a un accord entre l'industrie des assurances et le gouvernement. Donc, c'est pas une loi en tant que telle, mais c'est plutôt un accord entre ces deux entités-là. De ne pas utiliser les tests génétiques, avec quelques exceptions, par exemple, pour le test génétique sur la chorée de Huntington.
Ah oui, donc il y a une maladie monogénétique, comme vous le disiez, et ça, c'est un peu plus inquiétant, là, peut-être.
Parce que c'est un des tests qui a un niveau de prédiction du développement de la maladie qui est très élevé, qui va aller jusqu'à 100%. Okay. Mais même là, avec ce test-là, les assureurs au Royaume-Uni sont tenus de faire un rapport annuel des refus qu'ils font, de présenter aussi justement le nombre d'individus qui sont assurés, ou s'ils ont reçu de l'information génétique par mégarde, ils doivent aussi le divulguer. Donc il y a un niveau de transparence qui est très important.
Et il y a un niveau de recours aussi, j'imagine. Les gens peuvent s'adresser à une instance quelconque.
Effectivement, il y a une instance indépendante, un ombudsman qui a été créé, où les individus peuvent porter plainte s'il y a lieu. Et cette instance-là est séparée du gouvernement et de l'industrie. Donc, c'est vraiment un organisme indépendant.
Est-ce qu'il y aurait d'autres modèles qui seraient intéressants de par le monde, qui pourraient nous inspirer?
Il y a d'autres modèles qui sont les modèles des États européens en général, comme on veut prendre la France, l'Allemagne, qui sont plutôt des modèles qui ont émergé il y a plus de 10-15 ans, avec la Hollande aussi, où, par exemple, en France, l'information génétique ne peut pas être utilisée par les assureurs.
Donc, c'est une impossibilité totale.
Totale, hormis, par exemple, les cas qui incluraient les cas de recours devant la justice, où on aurait justement un mandat judiciaire pour le faire.
OK. Donc, par exemple, si une compagnie d'assurance conteste une réclamation... Est-ce que ça pourrait être quelque chose comme ça? Je sais qu'on rentre dans le détail, là, mais...
Moi, je donnerais plutôt comme exemple dans une affaire judiciaire d'ADN pour confirmer, par exemple, l'individu.
Donc pour confirmer l'individu. Ah oui, pour être certain que c'est le bon bénéficiaire, par exemple. Bon, j'aimerais vous entendre à ce propos, Shahad Salman, qui travaillait au sein d'Aligo. Rappelons que vous regroupez beaucoup d'université, mais vous êtes habitué de travailler avec le privé. Est-ce que c'est des modèles qui vous parlent, vous? Est-ce que vous croyez qu'on pourrait aller dans ces voies?
Bien, en fait, c'est que je crois qu'il y a du pour et du contre dans tous ces modèles-là. En fait, le plus gros enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre jusqu'à quel point est-ce que les compagnies d'assurance ont le droit d'avoir accès à des outils qui leur permettent de faire avancer leurs affaires. Donc, plus il y a des nouvelles façons de prédire la santé potentielle d'un individu à court, moyen, long terme, plus on veut y avoir accès. Donc, jusqu'à quel point est-ce que l'industrie de 1 a besoin de ça pour pouvoir aller de l'avant? Et de l'autre côté, c'est sûr que il y a c'est en fait un peu toute la question qui se pose avec toutes les données de plus en plus, ce qu'on appelle le big data, qui peut exister sur l'individu dans son parcours, par rapport à sa santé. Mais
parce que maintenant, on peut avoir toutes les données virtuelles et de l'autre côté, les données génétiques.
Oui, mais c'est ça. Ouais. Donc, jusqu'à quel point est-ce qu'en tant que société, on veut, de un, permettre à l'économie d'avancer de ce côté-là et de l'autre côté, protéger ce que l'individu croit qui fait partie de sa dignité. Veut dire, tu sais, on dit individu, mais il peut y avoir plusieurs perspectives parce qu'il y a des individus qui veulent donner cette information, qui trouvent ça super intéressant de les connaître et de les fournir. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là qui est assez
difficile
assez
à trouver. Ouais.
Par contre, il faut se rappeler qu'au Québec, veut pas la charte des droits et libertés. Les deux, en fait, ont permis une exception pour les assureurs de discriminer sur la base de leur de l'information liée à la santé. Évidemment, il y a des limites, la jurisprudence a balisé, mais ultimement, on a permis à l'industrie de faire, de bâtir son plan d'affaires sur cette question-là, c'est-à-dire les données liées à la santé des individus.
C'est très important ce que vous dites. Donc, il y a effectivement un modèle à trouver, mais on ne pourrait pas correspondre au modèle de l'Angleterre, puisque, comme vous le dites, les deux chartes ont permis une certaine intrusion dans les droits pour permettre aux gens d'avoir un risque. Écoutez, il reste tellement peu de temps, je suis désolé, mais avec cette loi canadienne, brièvement, de part et d'autre, est-ce que vous êtes à l'aise avec la loi canadienne qui a été adoptée et qui restreint la connaissance des génétiques?
Il ne faut pas oublier que cette loi est très restreinte au contexte fédéral. Donc, le droit des assurances, c'est québécois. Donc, est-ce que c'est un point de départ pour interdire éventuellement, dans certains cas, l'accès à cette information-là?
Donc,
peut-être. Mais
donc, c'est un débat qui doit continuer. Merci
absolument.
Infiniment, Shahad Salman d'Aligo. On était aussi avec Maître Ida Genfez de l'Université McGill. Merci. Et au téléphone, Monsieur professeur Pavel Hamet de l'Université de Montréal. Un débat à suivre.